marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Je suis très très riche. Je crois que c'est pour ça. Je me sens très coupable.
La libido politique des bourgeois en berne.
C'est la grande bourgeoisie, ça. On a des hobbies, on a des amants.
C'est pas la bourgeoisie, c'est la vie. Tout le monde est pareil, hein. Tout le monde travaille, tout le monde souffre, tout le monde trompe.
Ouais, ouais, mais tout le monde ne ment pas, tout le monde n'a pas les moyens de mentir. C'est la bourgeoisie qui tient à sauver les apparences. C'est la bourgeoisie qui a beaucoup à perdre en disant la vérité.
Je m'excuse, hein, mais il y a beaucoup de femmes pas riches qui mentent. Qui disent pas à leur mari qu'elles ont un amant, qui reste avec leur mari, parce qu'elles sauraient plus où aller, elles auraient plus de maison. Elles aiment aussi leur mari, leur amant et leur mari, les deux.
Ma mère, elle faisait les ménages, elle avait pas le temps de tromper son mari.
Elle avait peut-être pas envie.
Elle avait pas les moyens.
Oui, mais c'est de libido politique qu'on va parler. C'était un lieu commun en histoire et en sociologie. L'ancrage social déterminait l'intérêt pour la politique. Et aux deux extrémités de la société, la classe ouvrière et la bourgeoisie, on était chargé de vérifier cette vérité première, l'une et l'autre ayant conquis le droit et conservant le devoir de s'investir en politique. Une place leur était d'ailleurs assignée à chacune, sans que ce fût toujours vérifié. La gauche, évidemment, pour la classe ouvrière, et la droite, évidemment, pour la bourgeoisie. Cependant, le principe d'identification à une classe est devenu de plus en plus problématique. Les bourgeois sont habitués depuis longtemps aux stratégies d'évitement. Ils n'ont pas besoin de mots pour signifier clairement ce qu'ils sont. Mais du côté des dominés, il n'y a plus de motif de fierté à affirmer l'appartenance sociale et politique. Le jeune ouvrier qui prend des cours de salsa ou va en vacances à l'UCPA pour rencontrer des jeunes filles qui ne sont pas de son milieu ne va pas facilement dire qui il est sous peine de se prendre un râteau. Oui, mais revenons à la libido politique. Partout est répétée la même déploration. Le principal parti des ouvriers, c'est maintenant l'abstention. On entend beaucoup moins dire que les bourgeois sont touchés eux aussi par le désinvestissement politique. Même formés au vocabulaire de la responsabilité sociale des élites, ils ne se gênent pas pour affirmer que les élus sont des médiocres, même ceux dont on pourrait penser qu'ils leur sont proches. Les campagnes électorales, ils s'en fichent bien souvent. C'est un des charmes des grands bourgeois et des aristocrates que de passer brusquement de la litote à la grossièreté. Pour dire le vrai, ils sont nombreux à penser que la politique, c'est chiant et que la lecture du Monde ou du Figaro, exercice obligé, c'est un tue-l'amour. Décidément, la libido politique se relâcherait partout.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Kevin Jay, bonjour.
Bonjour.
J'ai osé ce titre, hein, la libido politique. Mais vous, c'est la libido siendi, l'envie de savoir qui vous anime.
Tout à fait, enfin, j'espère.
Alors, vous avez fait Master 1, les jeunes.
Les jeunes de l'UMP, dans le 16e arrondissement.
Master 2, le mouvement Civitas. Vous savez, ceux qui conchient le spectacle Pisse Jésus, hein, oui. Et qui attaque le meurtre des enfants à naître. Et puis, maintenant, une thèse avec le prix du jeune chercheur de la Fondation Dauphine, parce que vous êtes très lié à Dauphine.
Oui, hein, oui, oui.
Cette thèse, vous avez tiré un livre qui paraît aux éditions Fayard, Enquête sur les bourgeois. Le titre de votre thèse, moi, il me gêne un peu, c'est vous parlez du rapport des politiques avec les...
Du rapport à la politique
des classes supérieures.
Oui, parce que ma thèse, moins que le livre, moins sur le 16e arrondissement, essaie d'appréhender l'ensemble des classes supérieures.
Oui, mais c'est le mot supérieur, moi, qui me gêne. Vous devriez dire classe dominante, je ne sais pas, mais vous êtes à Dauphine.
L'idée, c'est de ne pas préjuger de leur domination à tous les coups, donc je me suis attaché à supérieure plutôt que dominante.
Alors, c'est difficile d'aller jusqu'à l'enquête individuelle, mais enfin, un sociologue doit le faire. Il y a des manières de se tenir, d'ailleurs, qu'il faut considérer. Quand vous étiez à Civitas, un mouvement d'extrême droite catholique, vous étiez gêné parce que vous n'aviez pas les codes en matière de tenue à la messe.
Tout à fait. Cependant, il y avait quand même un rattrapage possible, puisque ce sont des mouvements qui sont habitués à recruter, en tout cas qui essaient de recruter, et donc on peut se présenter comme recommençant et du coup avoir droit à l'erreur.
Oui. Tandis que dans les appartements ou les maisons des classes supérieures. Je parle comme vous, il est quand même recommandé de savoir se tenir, par exemple au moment où on sert l'apéritif.
C'est cher, ça coûte rien. Là, on fait de la méditation.
Mais là-bas, c'est l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire avec le martini dry.
Il faut être indulgent. Maurice est un homme du peuple. Il n'a pas eu d'éducation.
Aucun système ne pourra jamais donner au peuple tout le raffinement souhaitable. Et pourtant, vous me connaissez. Je ne suis pas un réactionnaire.
Une source importante pour cette émission, le charme discret de la bourgeoisie de
tout à fait Buñuel.
Où on passe jamais à table, d'ailleurs. Il se passe toujours des événements qui contrecarrent le projet de la maîtresse de maison. Alors, vous teniez un territoire. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, d'ailleurs. Le 16e, pourquoi toujours le 16e?
Alors c'est
le ghetto du Gotha, ouais, comme
c'est chimiquement pur.
Charlot,
ouais, ouais. C'est chimiquement pur le 16e, donc ça permet de voir des, ouais, choses façon avec une loupe grossissante. En même temps que faut pas toujours s'enfermer dans un territoire, puisque la bourgeoisie a une capacité à se projeter dans l'espace, va se socialiser ailleurs que dans le 16e arrondissement. Donc il faudrait pouvoir les suivre et peut-être quitter
les avenues sont vides.
Les avenues sont vides, on n'y voit rien, à moins de pousser la porte de certains lieux d'entre-soi.
Et puis dans les restaurants, les tables sont espacées et les consommations sont chères.
Les consommations sont chères, ça c'est... Oui,
alors il y aurait des solutions pour l'observation participante ou l'observation de près. Vous vous posez d'ailleurs la question, domestique?
Tout à fait, domestique, se mettre au service des classes supérieures.
Vous y tenez, hein. Précepteur.
Précepteur, absolument. Ouais. Qui sont... parfois de fausses bonnes idées, quoi. C'est-à-dire que précepteur, j'avais essayé, j'ai été prof particulier dans le 16e à Neuilly-sur-Seine, et en fait on voit pas les parents. Les parents ont recours à ce genre de service justement parce qu'ils ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants.
Et jeune homme au père?
Jeune homme au père, faudrait dire jeune fille au père. Et là, pour le coup, on a intérêt à être catholique.
Et alors vous acharnez à penser qu'il faut passer par la marge pour comprendre le 16e arrondissement, et donc vous voulez absolument aller au Bois de Boulogne. Cantonnier peut-être?
Cantonnier, ça c'est possible, oui, je les ai suivis, c'est assez facile.
Et vous avez décidé de conduire la camionnette d'une association catholique qui œuvre au Bois de Boulogne.
Tout à fait. Alors, à l'époque, j'espérais voir dans cette association d'authentiques bourgeois. En fait, les associatifs n'en étaient pas, mais je me suis retrouvé à côté du Racing Club avec ma camionnette, et du coup j'en ai tiré une thèse.
Oui, mais attendez, pourquoi il faut parler des prostituées du Bois de Boulogne? Parce que c'était quand même ça, votre objectif. Vous les photographiez derrière les vitres teintées de la camionnette.
Alors, c'était pas l'objectif initial. Je me suis retrouvé au Racing Club de France. Et puis, ce qui m'a choqué, c'est moins l'entre-soi bourgeois, qui est beaucoup décrit, notamment dans les travaux des Pinsons Charlot, que la présence de prostituées dont personne ne semble s'émouvoir. Du coup, il y a un nouveau questionnement qui arrive là.
Mais l'évitement, ça fait partie des... qualité.
Tout à fait.
Les classes supérieures.
L'évitement fait partie des qualités, mais c'est à peu près sous-étudié, puisqu'on préfère les voir se mobiliser, c'est plus haut en couleur, alors que l'évitement est moins étudié, notamment parce que c'est plus difficile d'étudier l'évitement, quelque chose dont personne ne veut parler, que personne ne fait, c'est pas évident à saisir.
Le sens de la propos, par exemple, qu'il faut. Vous racontez une scène où une mère appartenant au beau quartier est accompagnée de sa fille. Et voilà que surgit une dame en cuissarde et un peu déshabillée. L'à-propos de la mère qui vient de passer devant un cirque,
tout à fait,
pelouse de la Muette.
Ouais. Et qui dit à sa fille, c'est une écuyère, elle retourne au cirque. L'enjeu, c'est de garder la définition comme quoi aller au Racing Club, c'est une affaire de sport et de loisirs et non pas une affaire sexuelle. Donc on va nier la présence d'éléments dissonants comme les prostituées.
Oui, mais moi j'insiste sur la qualité de l'à-propos. Quand on tient une table. Alors là, on est dans un autre film, il est plus facile pour un chameau,
oui, hein,
de passer par le chat d'une aiguille que d'entrer au royaume des cieux. C'est un film de Bruno Tedeschi. Et là, on passe à table. Simplement, les maîtresses de maison peuvent être en difficulté quand il y a des hôtes qui cherchent la collision et non pas l'évitement.
Vous parlez italien, Pierre?
Je comprends, mais je parle pas.
Votre famille est italienne?
Oui.
Et votre père vit?
Il est mort. Mais oui, il vivait à Paris. Enfin, à Saint-Ouen. Il est venu en France pour travailler. Et puis, il s'est marié. Puis moi, je suis né ici.
Et pour travailler?
Chez Renault. Il était ouvrier chez Renault.
Et il est mort de quoi?
De fatigue.
Il a eu un infarctus et c'est parce qu'il était très fatigué. Parce que sa vie a été dure.
La vie est dure. En général.
Pardon. Oui, enfin, il a quand même travaillé à la chaîne pendant 30 ans, 10 heures par jour dans un pays qui n'était pas le sien.
D'où un silence. Il n'a pas la manière, là, Jean-Luc Anglade.
Non, il n'a pas la manière, mais... Elle non plus, ceci dit, d'autres qu'elle, plus jeunes sans doute, auraient fait une réponse différente à l'expression du problème du père. Quoi. C'est-à-dire quelque chose de moins violent, qui consisterait pas à dire que sa souffrance et celle de la mère sont commensurables. Par oui. exemple, les jeunes ont plus ce rapport, moins en tout cas, ce rapport de condescendance aux classes populaires.
Alors, le sujet, je vous le rappelle, c'est...
La libido.
Oui, politique.
Politique.
Des bourgeois, à cause de votre enquête sur les bourgeois qui vient de paraître chez Fayard, Kevin Jay. C'est pas au Bois de Boulogne que vous allez rencontrer le maire du 16e arrondissement. Je veux dire que il ne s'occupe pas de ces questions de l'espace prostitutionnel, puisque sa tactique, comme celle de ses électeurs, c'est l'évitement. En revanche, vous vous dites, tiens, les hommes politiques, on pourrait les trouver avec leur père. Par exemple... dans un dîner centré autour du cigare. Parce qu'à Dauphine, il y a une association d'anciens...
Des anciens élèves amateurs de cigares, oui.
Oui, on ne dit plus anciens élèves maintenant.
Alumni.
Alumni, c'est classe. C'est beaucoup plus chic. Mmh. Alors, dans cette association, on peut retrouver au dîner, quand il est en forme, André Santini.
Attention, ça c'est mon trésor.
Oh, mon Dieu.
Mais c'est mon vice.
Et dans tout ce qu'on voit là...
un compresseur, vous voyez. Et puis, c'est des cigares que j'ai acheté, il y a des amis qui m'en ont ramené, des faux, souvent, de Cuba. Enfin, ça leur fait plaisir que je les ai là. Mais j'en fume deux par jour, bah, on me le reproche.
Prenez-en un bon, là.
J'en ai déjà fumé un.
Mais pourquoi vous en prenez pas un bon? Parce qu'on mérite pas que vous en fumiez un bon?
Non, ça fait trop. Regardez, j'en prends un pour vous, là, pour faire l'image.
Donc, dans ce dîner, quand il était en forme, on trouvait André Santini. Vous avez trouvé le maire du 16e arrondissement. Alors là, il y a un chapitre très drôle. Il y a même un dessin qui l'accompagne. Il ne reste pas très longtemps au dîner. Il est à l'époque député et maire. Il dit qu'il doit rejoindre l'Assemblée nationale. Et il part en disant « Je vais voter vos impôts ».
Ce qui fait rire tout le monde.
Ouais. Alors, qu'est-ce qui se dit quand il est là? Qu'est-ce qui se dit quand il n'est pas là?
Alors, bah, c'est étonnant parce que tout le monde l'attend de pied ferme. Il arrive, il fait son numéro, c'est-à-dire qu'il fume un cigare. Il accepte d'être pris en photo fumant un cigare. Ça, c'est très important. Il faut assumer le fait d'être bourgeois si on veut prétendre représenter ces gens-là. Il dit, bon, bah, j'y vais, je vais voter vos impôts. Il fait baise-main. Donc, tout ça fait partie de l'exhibition de savoir-faire qui sont très importants pour les électeurs du 16e arrondissement. Et puis, une fois qu'il est parti, on s'aperçoit qu'on a des électeurs un peu dubitatifs qui disent « Oui, enfin, Guesgan, moi, j'ai déjà entendu tenir des propos pas si libéraux que ça sur l'ISF, manière de montrer qu'ils ne sont pas complètement dupes de ce qu'a pu raconter le maire d'arrondissement. »
Mais ensuite, vous faites des conversations privées avec tel ou tel et vous entendez des propos désagréables sur la médiocrité des représentants que les électeurs bourgeois eux-mêmes se sont choisis.
Absolument, et qu'ils peuvent fréquenter dans des relations privées. Ça qui est étonnant, c'est qu'ils sont à la fois près de ces gens-là et très loin, puisqu'il y a un mépris bourgeois pour le personnel politique, alors qui n'est pas le même que la distance, la défiance populaire à l'égard des professionnels politiques. C'est pas du tout les mêmes ressorts, c'est un mépris du haut vers le bas pour une profession de service qui fréquente le peuple, les banquets interminables, je cite des enquêtés, hein, avec ces militants minables qu'il faut satisfaire.
Et puis cette dame, ce sont des salariés... Et il ne s'occupe pas bien de nous.
Oui, elle compare les élus à son valet de chambre, une dame du 7e arrondissement. Je pense que c'est tout à fait révélateur. Elle se compare à Coco Chanel en faisant cela.
Oui, parce que Coco Chanel ne fréquentait pas beaucoup, paraît-il, les politiques parce qu'elle les trouvait nuls.
Médiocres. Oui. Je n'aime pas les médiocres.
Mais j'insiste, ce sont des parlementaires de droite là, qu'il est question. Parce qu'autrefois, encore un film... Potiche, qui est censé se passer à la fin des années 1970 dans les classes populaires, dans les classes supérieures, j'arrive pas à le dire. Si on avait du mépris, c'était pour les députés genre Union de la Gauche. Dans Potiche, le film de François Ozon, c'est Gérard Depardieu qui est le député communiste. Et alors voilà comment il est regardé à la télévision par ses adversaires.
On nous signale plusieurs points chauds en province où des ordres de grève ont été lancés par plusieurs syndicats. Nous allons demander à notre invité du journal, le député communiste Maurice Babin, de faire le point sur la situation.
Il manquait plus que lui.
Tant que les patrons ne voudront pas comprendre que les mesures radicales s'imposent en faveur des travailleurs,
bien sûr. Je m'en foutrais des travailleurs. Jusqu'à quand il va me foutre le bordel dans mon usine. Charognard.
Mais non, enfin, envoyez les CRS.
Excuse-moi, Joël, mais je ne suis pas sûr qu'avec des matraques et des gaz lacrymogènes, on arrive à quoi que ce soit.
Mais il faut quand même que ces ouvriers comprennent qu'ils sont hors la loi.
La violence ne résout jamais rien, il faut agir avec diplomatie.
Ah, mais évidemment, toi, t'es de gauche.
Ah, c'est sûr qu'à côté de toi, tout le monde est d'extrême gauche.
Écoutez, arrêtez les enfants, ça suffit maintenant, calmez-vous. Ils réclament tout maintenant, le refrain habituel. Augmentation des effectifs, 13e mois.
Hausse des salaires, réduction des heures de travail.
Suppression d'une surveillance soi-disant trop tatillonne.
Oui, alors là, évidemment, ça fait beaucoup.
C'est ce député de malheur, l'immonde Babin, qui les mène. Il sème le vent de la révolte, il les galvanise. Ah, mais moi, il me donne la chair de poule, cet homme-là.
Alors, vous allez me dire que c'était avant votre naissance.
C'était avant ma naissance.
Ouais, et que la situation n'est peut-être plus la même maintenant, et que l'hostilité s'est étendue à tous les députés.
Alors, disons que déjà, la peur des communistes est quand même assez lointaine. Comme disait Boltanski, on a affaire à une classe qui est instruite de son histoire, qui a bien vu que le programme commun de la gauche n'était pas le cataclysme annoncé. Et puis, une vision convergente des intérêts de classe, c'est-à-dire qu'au fond, on est tous dans le même bateau et que si on pousse tous dans la même direction, ça ira mieux. Donc, il y a ça qui est quand même très structurant. Après, c'est ce que j'essaie de dire plutôt, c'est que c'est une affaire de programme. Bien sûr, on sera apprécié si on est un élu de droite plus qu'un élu de gauche, mais que ça suffit pas, puisqu'il faut savoir plaire dans les situations privées. Et le 16e n'en manque pas. On croise les députés, le maire à l'occasion de kermesse, à l'église, lors d'une conférence sur les grands hommes qui ont forgé le 16e, ce genre de choses. Et là, les élus sont sur le grill.
Mais je vous imagine enquêtant. Vous leur parlez des élections à venir. Et vous leur posez une question en vous excusant. C'est une question standard, vous savez. Vous n'ignorez pas qu'il y a bientôt des élections. Et alors, qu'est-ce qu'on vous répond?
Ça dépend. Il y en a qui répondent juste, qui me donnent les deux tours des législatives. Et puis d'autres qui, avec un aplomb fantastique, m'affirment que non, il n'y aura pas d'élections, alors qu'il y a bel et bien des élections. Et ceux-là, ils sont intéressants parce que c'est des gens qui s'imaginent compétents politiquement, alors qu'en réalité, ils le sont peu.
Mais ils se rattrapent assez vite parce qu'ils sont capables de donner une explication d'un autre ordre que celle que donnerait un citoyen des ronds-points.
Tout à fait. En fait, si la libido est parfois en berne, ils ont de bons moyens
politiques. C'est de ça qu'on parle.
Évidemment, ils ont de bons moyens de le cacher. Capacité à transformer, par exemple, le fait de s'abstenir en un acte distinctif. Par exemple, je ne me suis pas abstenu le 21 avril parce que j'étais à New York à ce moment-là. Ça, c'est quand même plus classe que de dire j'étais à Berck-sur-Mer ou ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est une alchimie qui ne peut être réussie que si on est capable de convaincre un intervieweur. Et ça, il faut des ressources, notamment langagières, pour le faire.
Et vous leur posez la question de leur modalité d'information.
Tout à fait.
Alors,
eh bien, il y a ceux qui font preuve de bonne volonté culturelle, qui sont un peu plus proches de moi, fraction intellectuelle. Et puis, il y a ceux qui mettent un point d'honneur à expliquer que non, décidément, ils s'en fichent de tout ça, qu'ils lisent le monde à l'envers, qu'ils foncent aux pages culture, se désintéressent de la politique. Et ceux-là, ils sont intéressants. Pourquoi est-ce qu'ils n'essaient pas de faire bonne impression?
Oui, ils disent que le monde, c'est des pages interminables, les pages sont trop grandes.
Ça me tombe des mains, il fallait lire ça quand on était en droit, mais maintenant, il y a d'autres choses à faire, la culture, les voyages, c'est quand même plus intéressant. C'est une forme distinctive d'abstention, et qui est commune à d'autres types de pratiques. Par exemple, le langage aristocratique, c'est un mélange d'extrême précision et de relâchement, de grossièreté.
Donc ils vous disent que le Figaro c'est aussi un tue-l'amour.
C'est un tue-l'amour. Ce qui est le tue-l'amour ultime, c'est de suivre l'actualité de manière appliquée, comme ceux qui doivent tout à l'école.
Et ils lisent d'autres journaux?
La presse d'opinion, surtout les femmes qui lisent Paris Match. Mais là, elles ont une bonne façon d'excuser une consommation qui peut être illégitime en disant que de toute façon elles le lisent gratuitement chez le dentiste ou elles le reçoivent parce qu'elles y sont abonnées et que c'est une façon de suivre un peu l'actualité de leur milieu social.
Mais l'important c'est de savoir tenir tête même si on affiche la plus grande ignorance.
Et le plus grand relâchement, tout à fait.
Tenez, dans le charme discret de la bourgeoisie encore, il y a un évêque là qui est reçu chez une dame de la bonne société.
Merci. Raphaël, vous pourriez venir un moment? Permettez-moi de vous présenter Don Raphaël Acosta, ambassadeur de la République de Miranda, Monseigneur Dufour.
Monseigneur, Excellence,
Nous n'allons pas tarder à passer à table. En attendant, je vous sers quelque chose?
Ah, exceptionnellement, je prendrai un peu de whisky, mais très peu, avec du soda.
Raphaël.
Non, rien, merci. Je suis ravi de vous rencontrer. Vous savez que nous avons une importante mission à Bogota.
Bogota est en Colombie, monseigneur.
C'est vrai, c'est en Colombie. Pardonnez-moi, je confondais. Je ne connais pas la République de Miranda, mais j'ai entendu dire que c'est un pays magnifique. La cordillère des Andes, les Pampas.
Les Pampas, c'est plutôt en Argentine, monseigneur.
Vous avez raison, les Pampas, bien sûr. Pourtant, je devrais le savoir. J'ai vu récemment un livre sur l'Amérique latine. Il y avait d'admirables photographies de vos antiques pyramides.
De nos pyramides?
Ah oui.
Nous n'avons pas de pyramides à Miranda.
Enquête chez les bourgeois, c'est un livre de Kevin Jay, des investissements politiques. Mais pas des investissements dans le domaine scolaire. Vous pouvez nous dire d'ailleurs où vous avez fait vos études, vous? Parce que vous dites exhibition, Besmin, mais enfin, vous n'êtes pas à une audition du CNRS là pour avoir un poste, vous pouvez parler de vous de manière un peu moins lisse. Vous appartenez un peu à ce milieu.
Par ma mère, oui, qui est toujours aristocrate,
qui est
de l'aristocratie parisienne, un peu déclassée et catholique.
Et donc vous aussi.
Oui, tout à fait.
Et les études alors? Vous étiez où, vous?
Alors, lycée public dans le centre de Bordeaux, ouais. Plutôt avec des fils de profs, hein, on va dire. Ouais. Et puis après, Dauphine, où là, j'ai fréquenté la bourgeoisie économique qui m'intéresse aujourd'hui.
Et vous essayez de voir quelles sont, comme on dit, les stratégies scolaires des bourgeois. Mais il ne s'agit pas seulement, je crois que vous avez bien compris ça, de prolonger la réussite sociale dans la génération à venir. Il s'agit... Vous le dites, d'agir profondément sur l'âme des enfants.
Tout à fait. Alors ça, c'est les lycées comme Stanislas, les internats comme Sainte-Marie-de-Neuilly, qui en tout cas se présentent aux parents comme des institutions capables de réaliser à coup sûr la reproduction sociale. Évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça, ne serait-ce parce que ce sont des institutions qui reposent sur la croyance catholique. Leur efficacité vient de là, il faut que les élèves adhèrent à ça, et c'est pas toujours le cas. Donc il y a des ratés dans la reproduction sociale.
Mais reproduction sociale et transmission de la foi.
Et transmission de la foi. La pratique catholique, un peu comme partout ailleurs, hein, dans le 16e, est en déclin.
Oui, vous étudiez votre Fillon, rue de l'Assomption. Je dis ça parce que c'est tout près de la maison de la radio.
Oui, on est juste à côté.
Et alors?
Quand on regarde les plus jeunes, ils votent moins Fillon et ils sont moins catholiques que leurs parents. Ouais, même dans le 16e.
Ouais. Mais vous avez aussi fréquenté une autre école, on ne va pas en dire le nom, elle s'appelle Galois. Le livre, moi j'ai pensé naïvement que c'était peut-être l'école alsacienne, Galois, alsacienne. C'est peut-être pas l'école alsacienne, mais enfin c'est quelque chose qui ressemble
tout à fait
à l'école alsacienne, où c'est plus cool, dirons-nous. Hein.
C'est plus cool, tout à fait. En fait, le problème de lycées comme Stanislas, c'est que très vite les élèves sentent la discipline et en souffrent. Donc il faut aller vers plus cool.
Donc souvent, dans l'école Galois, viennent des élèves qui ont échoué ou qui se sont sentis enfermés dans les écoles plus traditionnalistes.
Oui, tout à fait. Ils ont souffert de la discipline, du règlement intérieur, de l'absence de mixité sociale et de relations de genre. Ouais.
C'est les bonbons que j'ai eu à Halloween.
Vous êtes à l'école depuis longtemps?
Depuis la JE.
C'est le jardin d'enfants quand on a 4 ans.
La première qui l'a fait, je ne pas la sortir.
Vous aimez bien l'école? Ici?
J'adore cette école. Vraiment, ouais. J'adore cette école.
Oui, moi aussi.
L'école alsacienne.
Franchement, il y a une bonne ambiance. En plus, à part quelques-uns, les profs sont sympas. Donc.
Vous avez fait des voyages déjà?
Toutes les années, les 6e vont en Alsace. Et toutes les années, les 5e vont à Rome. Et après, je sais plus.
Vous savez ce que vous allez faire à Rome?
Non, mais...
On va manger des pizzas.
Oui, en fait, notre professeur principal, c'est un peu le spécialiste de ce voyage. Donc, on a beaucoup de chance parce que pendant que toutes les autres classes vont aller se coucher, nous, on va aller dans une pizzeria et voilà.
Donc ça, c'est l'école alsacienne dans un documentaire de Virginie Bloch-Lenné sur France Culture. Et Symétrique, le collège Stanislas à Paris, où les prêtres ont cru bon de remettre la soutane, et dicte un règlement dont vous publiez quelques bonnes feuilles. Il témoigne d'un riche imaginaire chez ses rédacteurs. Je vous laisse lire.
Tout à fait. Alors là, c'est le chapitre qui concerne l'expression de la dignité de la féminité. Donc, les hauts. Les t-shirts, débardeurs, sweats à capuche et hauts légers sont interdits. Les filles doivent avoir des hauts avec manches courtes ou longues selon la saison. Les épaules sont toujours couvertes. Les hauts doivent être opaques. Cela exclut donc notamment les hauts à grosses mailles, ajourés, transparents ou en doublure. En ce qui concerne les décolletés, ceux-ci doivent être à col rond, à petit col V, non à col bateau tombant sur les épaules. Par conséquent, il est exclu que l'on voit la naissance de la poitrine ou les bretelles des sous-vêtements. Les hauts doivent tomber sur le bas des hanches et ne pas s'arrêter à la ceinture du pantalon. Pantalons et jupes sont proscrits, les pantalons très larges ou trop moulants, les pantalons troués, les pantalons taille basse rapidement indécents, les pantalons de cuir, les leggings, les shorts. Les jupes et robes doivent être opaques et d'une longueur décente.
Tandis que dans l'autre école, la symétrique, il n'y a guère que le tatouage qui soit interdit. Et d'ailleurs, comment vérifier les tatouages ?
Le tatouage.
Il y a peut-être d'ailleurs plus de tatouages chez les filles de Stanislas, puisqu'elles ne peuvent rien montrer.
Peut-être.
Ouais. Alors, quelle conclusion provisoire tirez-vous de ce rapprochement entre deux styles ?
Il y a plusieurs choses. C'est que déjà, changer comme ça d'établissement produit des effets. Ce sont des petites mobilités scolaires. On passe quand même d'un lycée d'excellence à un autre lycée d'excellence. Cependant, on se met à avoir des comportements qui nous étaient interdits. Par exemple, des comportements sexuels, hein, embrasser un camarade de classe, pourquoi pas avoir des relations homosexuelles. La déprise du catholicisme se fait très vite sentir, on rencontre des gens de gauche, un peu, et tout ça change le rapport au monde de ces élèves-là, qui se mettent à apprécier les relations de classe de façon différente, à porter un regard moins conservateur sur le monde social. Et ça, à mon avis, ça explique les petites mutations dans les façons bourgeoises
de voir le monde social. En gardant un sentiment d'appartenance.
En gardant un sentiment d'appartenance, mais qui est un petit peu changé au sens où on apprend à ces élèves-là à tenir un discours critique sur leur propre position sociale. Ils ne peuvent plus, ces gens-là, paraître snobs. Ça, c'est le pire pour eux, puisqu'il faut s'adapter au monde de l'entreprise, de l'université, où on attend qu'ils sachent tenir un discours critique sur leur position sociale. Et on leur apprend ça.
Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait un changement des comportements dans l'expression politique, il y a un changement des comportements aussi, parfois, dans les choix scolaires. Il est des bourgeois, expliquez-vous, qui comprennent que les valeurs et le style de vie de leur milieu d'origine se dévaluent à mesure que les élites s'internationalisent, franchissent les frontières, se sécularisent. Ils comprennent dès lors qu'à ne rien lâcher, on risque de tout perdre.
Tout à fait. Je donne un exemple à un élève qui me raconte la cérémonie des cartables à Stanislas. Donc tout le monde est dans la chapelle, on bénit les cartables à la rentrée. Ce jour-là, il a eu le sentiment d'appartenir à un groupe en déclin. Il s'est dit, oh là là, mais qu'est-ce que je fais ici ? C'est pas ça qui va me préparer au monde. Il s'en est ouvert à ses parents, et les parents, ça les inquiète eux aussi. Ils se disent, ok, mon enfant va être identifié comme quelqu'un de, je sais pas comment dire, has-been, tout simplement, hein, en retard. Et cette inquiétude, elle peut motiver des changements scolaires dont je traite dans le livre et qui ont des effets politiques bien réels.
Merci à vous, Enquête sur les bourgeois. Aussi, je vous propose un petit exercice, on a 30 secondes. Maintenant, c'est un exercice qu'on fait souvent à Dauphine comme ailleurs. 30 secondes pour présenter votre livre.
Oh là là, ça c'est... écoutez l'édition de Jean Morin. Écoutez, je dirais... Un décalage au niveau du regard qu'on porte sur la bourgeoisie, par les marges, voir quand est-ce que les bourgeois sont mis en difficulté. Et ces moments-là, ils sont intéressants parce qu'ils persévèrent dans leur être et ils mobilisent des ressources inattendues pour rester bourgeois.
Et ce livre, il est paru chez Fayard.
Merci.
Nous avons salué Zachary Boubli qui a préparé cette émission, Sonia Leglen et Audrey Ripouille pour la réalisation, et j'en ai choisi le titre de cette émission pour faire plaisir à Patrick Henry, notre technicien.